La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Louise Bourgeois est entrée relativement tard dans la carrière d'artiste, mais elle a travaillé jusqu'à la fin de sa vie avec une intense productivité. Elle dessinait encore la veille de sa mort en 2010, à l'âge de 98 ans, portée par une créativité qu'alimentait également des penchants maniaco-dépressifs, lesquels trouvaient dans l'art un formidable exutoire. Il faut dire que son œuvre ramène à des angoisses primitives. Elle parle de la famille, elle parle de l'inconscient. Et son œuvre agit bien souvent comme un miroir sur le regardeur, comme Nadine Satia en a fait l'expérience. Elle qui lui a consacré un livre aux éditions Flammarion. Elle sera demain ici pour nous en parler. Mercredi, c'est un grand témoin, en même temps qu'un fin analyste de ses sculptures et de ses installations, qui sera avec nous pour parler de Louise Bourgeois. J'ai nommé Jean Frémont, directeur de la Galerie Le Long. Et puis jeudi, deux invités EES, avec d'abord le regard de Tiphaine Samoyo sur l'artiste américaine dont la jeunesse dans le milieu des tisserands lui a rappelé la sienne, et ensuite avec Evelyne Grossman sur un angle plus psychanalytique. Et aujourd'hui, pour raconter la vie de Louise Bourgeois, nous sommes en compagnie de Marie-Laure Bernadac, qui vient de publier, il y a quelques mois à peine, sa biographie chez Flammarion de Louise Bourgeois. Elle a aussi exposé son travail à de multiples reprises en tant que commissaire d'exposition. On pense en particulier à la grande exposition du Centre Pompidou en 2008. Bienvenue à tous, voici la Compagnie des œuvres.
My name is Louise Joséphine Bourgeois. I was born in 24th of December 1911 in Paris. All my work of the last 50 years, all my subjects have found their inspiration in my childhood.
La voix de Louise Bourgeois dans une émission de 1996. Où elle annonce d'emblée que toute son inspiration vient de son enfance, comme nous allons le voir avec vous, Marie-Laure Bernadac. Bonjour.
Bonjour.
Pourquoi une biographie aujourd'hui, alors qu'on sait que Louise Bourgeois a beaucoup raconté sa vie elle-même, dans son journal, qu'elle a tenu dès l'âge de 11 ans, dans une abondante correspondance, dans ses livres aussi, et presque jusque dans ses rêves? Qu'est-ce que vous avez pu, qu'est-ce que vous avez voulu ajouter?
Alors, il faut spécifier d'abord que c'est la première biographie, parce que tous ces journaux et cette correspondance sont complètement inédits. Elle avait gardé tout ça dans ses archives, chez elle, dans sa petite maison de Chelsea. Et c'est à sa mort qu'on connaissait les journaux, mais ils n'avaient jamais été publiés. La correspondance n'avait jamais non plus été publiée. Et en fait, je voulais un peu vérifier. Bon, d'abord, comme vous l'avez rappelé, j'ai beaucoup fréquenté Louise Bourgeois, depuis 92, quasiment jusqu'à sa mort. C'est non seulement une artiste que je respectais, et j'ai beaucoup travaillé avec elle pendant une dizaine d'années. Et quand elle est morte, j'ai senti un très grand vide et j'ai eu besoin de la faire revivre d'une certaine façon, de la ressusciter, de me refamiliariser avec sa vie. Alors la difficulté, vous l'avez soulevée, c'est parce que tout son art est entièrement autobiographique. Et donc la question que je me suis posée, en quoi une biographie va nous apprendre plus que ce qu'elle-même a dit à travers son œuvre, ou elle-même n'a pas raconté sa vie. Mais vous savez que souvent ces récits sont très subjectifs. Donc je voulais vérifier avec les vrais documents, avec le journal, avec les faits, raconter sa vie et la confronter avec ce qu'elle-même en avait dit plus tard.
C'est ça, vous avez essayé de tisser à la fois la vie et l'œuvre, parce que les deux sont totalement, totalement imbriqués l'une avec l'autre.
Oui, c'est très étroitement lié. Et en effet, c'est une forme de tissage, puisque on est dans la tapisserie avec Louise et dans l'atelier de tissage, et on est dans l'araignée. Et la façon dont j'ai travaillé est un petit peu comme ça. C'était prendre un fil, le nouer, et essayer avec tout ça que ça dessine un portrait de Louise Bourgeois.
Ouais. Alors vous vous êtes demandé aussi, Marie-Laure Bernadac, comment il était possible que quelqu'un qui était aussi perturbé psychiquement puisse créer une œuvre qui soit aussi spectaculaire, aussi audacieuse, aussi novatrice. Je reprends ici vos mots.
Oui, c'est à la fois paradoxal et puis peut-être c'est une fausse question. Peut-être que des très grands artistes sont très perturbés psychiquement et arrivent à surmonter par l'art, comme une forme de thérapie ou comme une forme d'exorcisme, ces déséquilibres et cette fragilité psychique. Et en même temps, ce dont je me suis aperçue, c'est que au début, c'est quand même quelqu'un, certes hypersensible, une petite fille hypersensible, mais très cultivée, assez rationnelle, assez organisée. Et la vraie fêlure, je l'ai vue apparaître beaucoup plus tard. De même, la dépression, vous avez évoqué cette tendance maniaco-dépressive. Mais en fait, elle apparaît, je dirais, après la guerre. Après les enfants, quand elle est confrontée à la difficulté d'être artiste et de vivre sa vie de femme, sa vie d'épouse, sa vie de mère et sa vie d'artiste. Et là, je crois que c'est trop, d'une certaine façon. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'elle a une espèce de double discours. C'est qu'elle continue dans ses lettres à son mari, parce qu'il y a une très grande, importante correspondance avec son mari. Il faut rappeler Robert Goldwater, un grand historien d'art, conservateur de musée, très important.
Les circonstances de leur rencontre.
Absolument. Et donc, ces lettres sont assez rationnelles, les lettres à son père aussi. Et son journal intime révèle quelqu'un de beaucoup plus perturbé, qui n'a jamais confiance en elle, qui peut être très méchante, très drôle et très méchante en même temps, et qui a un constant doute sur ce qu'elle fait.
Vous avez dit une épouse, une mère, une artiste. C'est vrai qu'elle est tout cela à la fois et tout cela pleinement. Elle n'a pas fait de choix parmi ces trois possibilités de vie qui s'offraient à elle.
Et alors il faut rappeler que c'est quand même assez rare pour les femmes artistes de l'époque d'être mère. Déjà, c'était difficile d'être femme artiste, et spécialement à New York. En plus, étant une femme française, mariée à un conservateur, ayant des enfants, ça veut dire que vis-à-vis du milieu de l'art américain et des marchands, elle n'existait pas. Donc elle a énormément souffert, été frustrée du fait que la plupart des gens venaient voir son mari, venaient voir Goldwater, et qu'elle était considérée comme une artiste amateur, j'allais dire, puisqu'elle avait trois enfants dont elle s'occupait. Et ça, c'est vrai que c'était la situation de pas mal de femmes à l'époque. Donc c'est en ce sens qu'elle est pionnière. Rappelons qu'elle est née en 1911, vous l'avez dit, c'est quand même quelqu'un qui traverse tout le siècle et qu'elle est vraiment connue à partir de 80, donc à 70 ans.
Y compris aux États-Unis, ou quand même un peu plus tôt aux États-Unis. Et c'est ensuite.
Elle est d'abord connue
très longtemps après que la France.
Très longtemps
va finalement
après en France. Oui, j'ai un chapitre qui explique un peu le malentendu et la non-reconnaissance française. Bon, alors qu'elle se revendique vraiment de culture française. Certes, elle est devenue American artiste, born in France, un peu comme Marcel Duchamp, mais elle a pris la nationalité américaine assez tard, en 57. Et avant, elle était vraiment française.
Elle a gardé d'ailleurs son charmant petit accent français.
Les expressions. Et comme elle parle beaucoup de son enfance, plus elle vieillit, plus elle parle de ses souvenirs d'enfance, plus elle est reliée à la France.
Alors, on ne va pas faire une hagiographie quand même de Louise Bourgeois avec vous. Ce n'est pas d'ailleurs ce que vous avez fait, Marie-Laure Bernadac, dans votre livre. Ce n'est vraiment pas une sainte non plus.
Non, sûrement
c'est le contraire
pas.
D'une sainte aussi, parfois.
Non, elle est assez acerbe, très critique. Mais finalement, toutes ces pointes acérées sont très justes. Elles sont souvent exagérées. Moi, je les trouve très drôles. Bon, j'en cite beaucoup pour montrer qu'en effet, il y a une jalousie féroce. Ça commence avec les frères et sœurs, la jalousie des frères et sœurs. Il y a un mélange de haine et amour qui se manifeste dès sa première amitié amoureuse, adolescente, avec une fameuse Simone Brunehose.
Elle la fait pas mal souffrir, en effet.
Oui. Et elle dit plus je la fais souffrir, plus elle-même. Enfin, on voit très très vite les sentiments très sadomasochistes qu'elle peut avoir avec les êtres. C'est un journal d'enfance qu'elle écrit quand elle a 14-15 ans, qu'elle est au lycée Fénelon. Et bon, c'est ce qui arrive souvent à l'époque, les amitiés amoureuses passionnelles des jeunes filles. Et ça, ce journal m'a beaucoup amusée parce qu'on voit déjà toute sa perversité, la façon dont elle manipule, et elle le dit. Alors ça, son journal, en fait, bon, ça c'est aussi peut-être une des difficultés de la biographie, c'est qu'elle dit tout dans son journal. Donc j'avais presque trop de matériel. Il fallait choisir, je ne pouvais pas tout dire, tout publier. J'ai pas mal insisté sur l'enfance et l'adolescence, qui étaient les choses les moins connues.
Elle ne ment pas dans son journal, selon vous? Elle se parle à elle-même dans son journal?
Je pense que c'est toujours une espèce de connais-toi toi-même, qu'elle ne ment pas. Qu'elle s'analyse, elle fait de l'auto-analyse tout le temps. Ce qui explique que plus tard, elle va renier complètement le fait d'avoir une analyse. Elle dira toujours non, j'ai jamais fait d'analyse, ça sert à rien. Parce que d'une certaine façon, elle considère qu'elle a fait elle-même son analyse et son auto-analyse. Let me tell you a secret.
Je m'appelle Louise Joséphine Bourgeois, je suis née le 24 décembre 1911 à Paris. Tout mon travail des 50 dernières années, tous mes sujets trouvent leur source dans mon enfance. Mon enfance n'a jamais perdu de sa magie, elle n'a jamais perdu de son mystère, elle n'a rien perdu de sa dimension dramatique.
La Compagnie des œuvres, et vous avez reconnu Marie-Laure Bernadac en français, cette fois la même phrase que nous avons diffusée en anglais au début de cette émission, parce qu'il faut toujours revenir à l'enfance avec Louise Bourgeois. C'est d'ailleurs bien ce qu'elle n'a cessé de faire, revenir à cette enfance qui est une enfance à la fois mystérieuse, dit-elle, magique et dramatique. Et pourtant, c'est une enfance qui apparemment semble parfaitement heureuse.
Oui, tout à fait. C'est ce que je dis, je crois, que quand on voit le journal d'enfance, les séjours sur la Côte d'Azur, l'enthousiasme, que c'est aussi quelqu'un, on a fait d'un peu méchant, d'un peu sarcastique, mais d'hypersensible. Hein. On sent déjà un sentiment lyrique, la façon dont elle parle de la nature, dont elle parle d'elle-même. Le premier journal qu'on a trouvé de 12-13 ans est très significatif, parce qu'elle est déjà consciente, si jeune, qu'elle est une petite fille singulière, qu'elle est un peu spéciale, elle le dit hein, très très vite. Elle dit, tous ceux qui trouveront son journal trouveront peut-être que je raconte des choses qui n'ont aucun intérêt, mais moi je sais que c'est quelque chose de... Non, très très vite, dès 12-13 ans, on voit qu'elle est singulière. Et
C'est une famille bourgeoise aussi,
alors,
ça aide quand même.
Une famille bourgeoise.
Parce qu'il y a, donc, y a de l'argent, donc
exactement.
On vit facilement.
Il y a des voitures, il y a des séjours sur la Côte d'Azur, il y a le papa qui achète des robes de grand couturier.
Alors, joue dans le Chanel,
exactement.
Poiré. Il y a des photos d'ailleurs dans votre livre.
J'étais même très étonnée parce que je ne connais pas assez le milieu commerçant, genre le commerce des tapisseries, mais apparemment ils avaient beaucoup d'argent. Moi j'imaginais que venant d'une famille quand même assez ouvrière, les tisserands d'Aubusson, que vendre des tapisseries anciennes, et ben apparemment ça rapportait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
D'ailleurs, elle est née boulevard Saint-Germain, je crois.
Boulevard Saint-Germain, je ne sais pas si c'était très chic à l'époque, le boulevard Saint-Germain, c'était plutôt bohème. Mais alors ça, c'est le côté donc confortable de l'enfance heureuse. Mais plus tard, elle dira que pas du tout, elle n'a jamais eu une enfance heureuse, même si elle était très, très gâtée. Elle était surtout adorée par ses parents. Ça, je crois qu'on le voit bien aussi dans son journal. Ses parents l'appelaient le diamant rose. Alors ça veut dire déjà que les autres frères et sœurs comptaient pas beaucoup. La pauvre Henriette qui boitait, qui a pas fait d'études, n'existe quasiment pas. Le petit frère Pierre, on en parle très peu.
Mais pourtant, ils voulaient avoir un garçon, les
parents. Oui, mais je pense que le garçon a très vite déçu. Et je pense que c'est un père à fille, Louis. Hein. C'est sûr qu'il a une relation quasi incestuelle ou incesteuse avec sa fille Louise. Il y a une sorte d'adoration. Et surtout, elle est très vite l'enjeu de entre les parents. Dans la mesure où Louis, donc ça, on l'a tout le temps raconté, avait une liaison plus ou moins cachée avec la jeune gouvernante.
Avec pas suffisamment cachée, justement.
Pas suffisamment cachée. Bon, apparemment cachée, on n'en parle pas dans la correspondance. Même Louise n'en parle pas. C'est quelque chose qu'elle découvre beaucoup plus tard. Mais que petite, elle a ressenti, forcément. Et qu'elle a senti comme une trahison. Parce que cette jeune Anglaise qui venait pour leur apprendre l'anglais, bon, déjà aussi, le père voulait que les enfants parlent anglais, ce qui était assez d'avant-garde et très, très ouvert. Cette jeune fille, donc, qui a 6 ans de plus que Louise aime beaucoup, l'a trahie en devenant la maîtresse du père. Mais alors, l'aspect un peu dramatique, bon, le mystère, c'est en effet ce secret un peu caché de la trahison du père, puisque ça ébranle absolument toutes ses convictions à partir du moment où le père peut lui faire cette trahison. Louise, tous ses fondements s'écroulent, c'est une faille. Voilà, la fameuse faille vient de là. Et il y a d'autres éléments très perturbants qui sont la maladie de la mère. Et ça, je pense aussi qu'il y a deux journaux entiers qui sont consacrés aux soins qu'elle prodigue elle-même à la mère.
Alors, on va y revenir parce que c'est vrai que c'est très important. Si elle s'appelle Louise, il y a deux hypothèses sur le choix de ce prénom. Lesquelles sont-elles, Marie-Laure Bernadac?
Alors, sa mère était très féministe et c'est en souvenir de Louise Michel. Elle dit, voilà, maman était très féministe. Donc, en souvenir de Louise Michel, mais je crois que surtout la vraie explication, c'est parce que le père attendait un garçon, le père s'appelle Louis et donc elle a le nom du père. Et donc, elle se dit, voilà, pour consoler Louis, on va appeler la petite Louise. Donc, elle est déjà prédestinée à être la fille du père.
Donc on sent bien en effet quand même qu'ils se tirent un petit peu vers eux, leur petite fille. Il faut parler de ce travail qui relie aussi la famille, qui est le travail des tisserands. On va en parler beaucoup cette semaine et en particulier avec Tiphaine Samoyo jeudi. Qu'est-ce qui se passe dans le quotidien de cette famille autour finalement de cette activité ?
Alors, donc, il y a deux pôles. Il y a le pôle commerçant 174 boulevard Saint-Germain, où donc Louis monte ce magasin qui s'appelle Aux Vieilles Tapisseries. Donc, je rappelle que c'est l'actuelle librairie L'Écume des Pages. Hein. Et la devanture est quasiment exactement la même. On a retrouvé les photos, l'espace est le même. Et il y a d'abord à Choisy-le-Roi, dans une grande maison, jusqu'en 1917, et ensuite à Antony, il y a l'atelier de restauration de tapisseries. Parce que pour restaurer les tapisseries, Donc, le père allait dans tous les châteaux et partout en France récupérer des tapisseries usées. Parce qu'à cette époque-là, les gens s'intéressaient, se débarrassaient dans les châteaux de leurs tapisseries. Toutes les tapisseries avaient le bas usé. Et il fallait refaire les pieds, les jambes,
et
les
chevaux. Et elle se spécialisait dans les pieds.
Elle s'est spécialisée dans les pieds des chevaux et les pieds. Donc, elle l'aidait un tout petit peu. Et donc, il fallait être près d'un fleuve pour le tanin. Donc, d'abord, ils étaient au bord de la Seine. Ensuite, ils étaient au bord de la Bièvre.
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de tanins dans la Seine. Il faut le savoir. C'est pour ça qu'ils ont déménagé.
Ils ont déménagé à Antony, le long de la Bièvre. Parce que la Bièvre, à l'époque, coulait au fond du jardin. Et donc, Louise raconte très précisément. Elle vivait donc entre le boulevard Saint-Germain pour ses études, mais à l'atelier d'Antony. Donc, elle prenait le train à la gare du Luxembourg pour aller jusqu'à Antony. Et là, elle vivait avec les ouvrières. Il y avait 25 ouvrières, donc c'était comme un grand atelier. Et tout le travail de la laine, de la teinture, parce que la mère était vraiment une grande spécialiste, elle n'avait que des teintures naturelles, ne prenait que des tapisseries du 15e au 18e, parce qu'après, elle considérait que c'était plus intéressant.
C'était une artiste pour vous, la mère de Louise Bourgeois ?
Non, je pense que c'était une excellente tisserande qui avait elle-même hérité ce travail très dur de sa grand-mère. C'est quelque chose qui se transmettait de mère à fille. Et c'est elle qui dirigeait l'atelier, qui faisait toutes les opérations très techniques de la teinture. Il faisait venir un dessinateur des Gobelins. Donc il y avait ce lien quand même avec la manufacture des Gobelins pour dessiner. Mais la petite Louise, dit-on, c'est peut-être la légende, dessinait un peu. Donc elle se rendait utile. Mais donc elle a vraiment baigné dans cet univers de couture, de pelote, de fil, de fileuse.
Il y a des couteaux dans cet univers, parce que vous avez appelé votre photographie la femme couteau. Est-ce que c'est en rapport un petit peu à l'artisanat aussi de sa mère ?
Je dirais que le couteau vient peut-être plus tard. Dans l'atelier, il y a beaucoup d'aiguilles, de ciseaux, de choses qui coupent.
Ouais, ça coupe quand même.
Mais le couteau viendra quand elle fait elle-même ses femmes couteaux. Et c'est déjà beaucoup plus agressif.
Ça veut dire quoi, femme couteau ?
Alors pour moi, ça veut dire féminin-masculin. C'est qu'à la fois, il y a ce couteau agressif, pointu, phallique, qui est la forme des sculptures qu'elle fait, hein. C'est un corps de femme allongé, donc qui n'a pas de tête et la pointe est toute pointue comme un couteau. Mais c'est aussi la définition de la femme sculpteur. La femme sculpteur, c'est celle qui taille, qui découpe, etc. Et c'est vrai qu'elle est aussi assez castratrice, hein. Elle adore couper, tailler, aussi bien les arbres, les fils. Mais je crois que le couteau, c'est quelque chose qui lui est propre. Les souvenirs d'enfance, c'est les outils de la broderie, les épingles, les aiguilles, qu'on voit dans toutes ses œuvres antérieures.
Il y avait un bruit familier à la maison, alors je vais vous faire ça. À l'heure du dîner, pendant le repas, pendant le dîner, ma mère voyait sur le visage de mon père une certaine crispation, une certaine irritation. Et mon père, qui était un homme d'émotion, ne pouvait pas contrôler son irritation sans insulter les gens. Et ma mère essayait d'éviter ça. Et alors, avant le repas, elle mettait à côté de l'assiette de mon père une autre assiette qu'il avait l'autorisation de briser. Mon père, qui vivait avec sa maîtresse, chez nous, sous le même toit que ma mère, par conséquent, je considérais que ses aînés, c'est-à-dire mon père et la maîtresse, se foutaient de moi, se foutaient de nous. Et que ma mère était victime. C'était une simple victime. Elle avait ses raisons pour ne pas se révolter, mais ses raisons n'étaient pas nos raisons. Ce n'étaient pas les raisons que mon frère et ma sœur avaient. C'était des raisons différentes.
la compagnie des heures et cet extrait d'un entretien de Louise Bourgeois avec Monette Berthommier. Je vous voyais rire, c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas rire et à la fois c'est tout de même dramatique cette anecdote qu'elle raconte.
Alors le père qui cassait les assiettes, il faut rappeler qu'elle-même en cassait beaucoup. Elle est d'une violence et d'une agressivité inouïe. Elle le dit, elle reconnaît sa violence, elle ne peut pas la surmonter. J'ai beaucoup parlé avec... Moi, je n'ai jamais assisté, heureusement, à des scènes aussi violentes, mais on en voit dans des films. Dans un film, elle prend aussi des assiettes, elle les casse. Donc, elle a hérité...
C'est pas un peu du théâtre aussi ?
Il y a un peu de théâtre, absolument, parce qu'elle fait ça dans un film. Mais il y a une véritable violence, une véritable agressivité qu'elle a beaucoup de mal à contrôler, ça c'est certain, mais qui est liée à une espèce de peur panique de l'autre. Elle a toujours, elle se sent toujours agressée et du coup, elle répond par la violence. Donc elle a hérité sûrement de son père. Elle dit d'ailleurs qu'elle a hérité la rationalité de son père et le cœur trop émotif. Bon, elle parle de l'émotion de son père qui ne sait pas contrôler ses émotions, mais elle est pareille. Donc il y a à la fois un côté un peu rationnel, hérité de la mère, et un côté très émotif qui vient du père. Et c'est vrai qu'elle faisait peur à certains cinéastes. Il y a eu beaucoup de films sur elle, beaucoup de photos où elle censurait, elle met les gens à la porte. Elle a fait peur à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui disent « mais elle est terrifiante, c'est une vieille dame très méchante, elle fait pleurer les gens pendant les salons du dimanche ». Moi, j'ai heureusement jamais eu en direct cette agressivité. Peut-être parce que je travaillais avec elle, donc il y avait à la fois une relation amicale, mais aussi une relation de professionnelle.
Est-ce que le côté rationnel du père...
De la mère,
pardonnez-moi, est plus irrationnel du père, est-ce qu'elle ne le sublime pas dans le rapport à la religion ? Parce que c'est une famille athée. Et très jeune, elle va décider...
De se faire baptiser. Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on a découvert. Et comme elle a nié qu'elle avait fait une analyse, elle a toujours nié qu'elle était baptisée et catholique. Parce qu'en effet, elle est une famille complètement athée, genre radicale socialiste, un peu. Ça, elle le dit tout le temps. Dans notre famille, on bouffait du curé, etc. Et quand elle est après la mort de sa mère, en 36, elle est à la Grande Chaumière avec ce professeur Yves Braillère, dont elle est un peu amoureuse. Elle a une petite histoire d'amour, où c'est lui-même qui est amoureux d'elle. Bon, c'est pas très très clair, en tout cas. Et elle demande à se faire baptiser, elle le prend comme parrain. Et non seulement elle se baptise, mais elle fait la première communion et la confirmation. J'ai trouvé ça dans ses carnets, c'est bien marqué.
Donc dans sa vingtaine, hein, elle est bien consciente.
Exactement, 36, elle a 25, 26 ans. Mais après, alors, je crois que c'est une époque où elle est très seule, où elle cherche sa voie, elle a perdu sa mère, qui est quand même le grand drame de sa vie.
Elle a 20 ans. Et elle s'en est occupée aussi énormément.
Elle s'en est occupée pendant 2-3 ans, comme non-stop. Quand elle s'en est occupée, ça veut dire qu'on l'a obligée à arrêter ses études à Fénelon, à la seconde, alors qu'elle était très bonne élève et qu'elle voulait passer son bac, ce qu'elle fera plus tard toute seule d'ailleurs. Et elle était vraiment l'infirmière de la mère, ce qui arrangeait le père. Le père continuait à se vadrouiller dans toute la France et Louise s'occupait de sa mère. C'est-à-dire la mère qui avait un emphysème, on a cru que c'était la tuberculose à un moment, elle avait attrapé la grippe espagnole en 18, la fameuse grippe espagnole qui a décimé tellement de personnes. Mais du coup, elle lui mettait des cataplasmes de rigolo, elle faisait vraiment l'infirmière.
Il y a tout de suite un rapport au corps et à la maladie.
Rapport au corps, les
ventouses,
elle mettait les ventouses. C'est pour ça qu'il y aura une œuvre plus tard qui s'appellera Les Ventouses. Ce journal-là d'une jeune fille de 17-18 ans est assez douloureux parce qu'elle ne parle que de ça, la maladie de la mère. Et donc finalement, la mère meurt en 32. C'est un deuil terrible pour elle. Et je pense que à cette époque-là, son père veut la marier. Il y a aussi plein d'épisodes amoureux plus ou moins réussis. Et elle commence des études de mathématiques, pensant que la géométrie et les mathématiques sont quelque chose de rassurant. Puis elle s'aperçoit pas tant que ça, que même la géométrie peut... si on prend la géométrie euclidienne, les parallèles forcément peuvent se rejoindre.
C'est l'infini tout d'un coup qui apparaît.
Donc elle se met à fréquenter beaucoup d'écoles d'art. Elle fait l'Académie Julian, l'Académie Rançon, les Beaux-Arts. Et je pense que c'est dans cette fragilité que Dieu... Elle le dit, hein, mon Dieu, la prière, c'est son grand recours. Je ne dirais pas qu'elle est mystique, mais il y a une espèce d'absolu, de désir d'absolu qui se manifeste dans ce rapport à la religion.
Alors, vous n'avez pas mentionné quand même deux tentatives de suicide qui surviennent après la mort de sa mère, pour dire à quel point c'est quand même une tragédie
pour
elle.
Ah oui, c'est son grand, grand traumatisme. Après, il y aura la mort du père, bien sûr, mais et la mort du mari, hein, quand même, très proche. La première tentative de suicide, elle se jette dans la Bièvre. Et en fait, c'est pas uniquement le chagrin dû au deuil de la mère, c'est parce que son père se moque d'elle. Donc là aussi, c'est quand même une relation au père très compliquée. Son père se moque de ses larmes, se moque de son chagrin, la traite de Sainte-Nitouche. Donc elle ne supporte pas ça. Et donc, vraiment comme geste par rapport à son père, elle se jette dans la Bièvre. C'est son père qui va la repêcher, bien sûr. Et après, la deuxième tentative, c'est que son père veut la marier. Un monsieur, alors là aussi c'est un peu une découverte, il s'appelle Henri Smajda, qui est un journaliste très connu, qui était médecin,
directeur de combat.
Exactement. Et donc elle ne veut pas de ce Smajda, donc elle prend du Gardénal ou je sais plus quoi. Enfin, une tentative un peu ratée, mais pour montrer son désaccord, alors que c'était, bon, il y a eu d'autres tentatives, pas de tentatives, mais d'autres tentatives de fiançailles avec différentes personnes, mais, donc son père veut que, pour lui, les études d'artiste, c'est absolument pas important, qu'elle se marie. Et heureusement, peut-être on y arrivera, en 38, elle rencontre le grand amour.
On va y arriver, mais d'abord on va parler justement un petit peu de ses études d'art.
Légitte est un excellent professeur. Malheureusement, il ne payait jamais son loyer, il n'avait jamais l'an. Alors il a été chassé de son local par les propriétaires. Alors on déménageait. Et le dernier atelier avant la guerre où nous étions, c'était rue Blomet. Enfin, on pourrait faire une liste de tous les ateliers qu'on a essayés. Mais c'était lui le meilleur, oui. Il avait beaucoup de mal à parler. Ce n'était pas un parleur comme André Lhote. André Lhote parlait toute la journée sans arrêt. Tandis que Fernand Léger avait beaucoup de mal. C'est pas qu'il avait du mal à s'exprimer, c'est qu'il n'aimait pas ça. C'était pas un homme bavard du tout. Et il n'était pas très sûr de lui, personnellement, et il était très gentil, très gentil. Mais il avait, si on le poussait, qu'on lui posait des questions, il était très bien quand c'est lui qui posait des questions, et c'est lui qui faisait des remarques. Mais quand on lui demandait une question, il se retirait, il disait, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, parce que c'était un vrai Normand, hein.
Des heures. Donc là, c'est le moment où elle a quitté la maison familiale d'Anthony. Elle s'est installée seule à Paris. Elle a réellement pris son indépendance, même si elle reste encore un petit peu sous la domination, on peut peut-être dire ça, mentale de son père. Et donc, elle choisit son destin en faisant des études qui sont des études que son père n'a peut-être pas forcément envie qu'elle fasse, d'ailleurs, Marie-Laure Bernadec.
Sûrement pas. Elle fait à la fois des études pour devenir artiste, hein, puisqu'elle fait, comme je l'ai rappelé, l'Académie Julian, l'Académie Rançon, l'École des Beaux-Arts. Elle essaye plein d'académies, et surtout une école très importante, qui est l'école Paul Colin, qui a été très importante, parce qu'elle ira d'ailleurs en Russie, ce qui est quand même assez extraordinaire, en 32 pour un voyage d'agrément, mais en 34, elle fait un voyage en Russie avec les élèves de Paul Colin, parce que Paul Colin était très engagé à gauche. Et là, on l'entendait parler de Léger. Léger aussi était un professeur
alors
très
justement,
important.
Justement, qu'est-ce qu'il a pu apprendre?
C'est Léger qui lui a dit, mais Louise, vous êtes sculpteur. Elle raconte toujours cette anecdote où elle avait dessiné, découpé une espèce de petite tornade comme ça qui tournait en spirale, sans doute un exercice quelconque. Et il lui a dit, mais vous êtes sculpteur, vous voyez tout en trois dimensions. Parce qu'au départ, elle était vraiment plutôt dessinatrice, peintre, graveur. Hein. Ses premiers travaux sont peinture, sont en deux dimensions. Et très vite, Léger lui a dit, mais Louise, vous êtes sculpteur. Mais je crois que le plus important, c'est finalement l'académie, c'est Yves Brayer, qui était un professeur très important pour elle, mais après Grand-Mère aussi, aux Beaux-Arts. Mais là, elle voulait aller d'académie en académie pour pas s'enfermer dans un enseignement. Et les Beaux-Arts étaient considérés comme très académiques à l'époque. Donc les académies Julian et Rançon étaient beaucoup plus ouvertes. Il y avait des modèles nus, hein, alors que les autres femmes n'avaient pas le droit de voir de modèles nus. C'est là où elle raconte que tout d'un coup,
cette fameuse anecdote,
qui avait une érection.
Et là, elle s'est rendue compte de la fragilité des hommes.
La fragilité des hommes. Et en fait, elle a toujours été très protectrice vis-à-vis des hommes, parce qu'elle a dit, moi, j'avais 4 hommes à la maison, mon mari, mes 3 fils, je me suis occupée de tous ces hommes, et de façon protectrice.
Ça ressemble à quoi sa vie à ce moment-là? Elle fréquente quand même un certain nombre d'artistes. Il y a Brassailles qui la prend en photo.
Alors Brassailles, je crois, c'est parce qu'il était venu pour photographier l'Académie Rançon. Hein, la Grande Chaumière, pardon. C'est des photos de la Grande Chaumière. Donc il n'y a pas qu'elle, mais il y a des très jolis portraits. Elle fréquente, mais pas des artistes très connus. En fait, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que si elle était restée en France, à mon avis, elle serait restée une artiste assez académique. C'est que ses premiers travaux, entre Colin, qui avait un côté art déco années 30, affichiste, bon, assez 25, hein, 25-30, après Grommer, Braillère, tout ça, c'était quand même pas... Après, elle étudie aussi la sculpture avec... Ça va me revenir à quelqu'un d'autre, Vléric. Mm-hmm. Vléric, un élève d'Espio.
Robert Vléric.
Voilà. Donc tout ça, c'est pas tellement avant-garde. Et en fait, elle découvre vraiment l'avant-garde quand elle rencontre son mari. Et parallèlement, quand même, à ses études, pour gagner sa vie, à ses études artistiques, elle fait l'école du Louvre. Alors ça m'a beaucoup amusé, parce que moi, j'ai même fait l'école du Louvre.
Et vous avez travaillé au Louvre, puisque vous vous occupiez de l'art contemporain. Au Louvre, c'est d'ailleurs, je fais une parenthèse, au Louvre que vous avez appris la mort de Louise Bourgeois.
Oui.
Ça vous a fait quelque chose de particulier, parce que elle aimait beaucoup, je crois, ce musée, parce qu'elle aimait beaucoup
plein de souvenirs. Elle la grande histoire de l'art. Un concours de conférencière, c'est que non seulement elle fait l'école du Louvre, donc elle a eu le diplôme, et pour gagner sa vie, elle passait un concours, et j'ai retrouvé ses notes aussi dans les archives, qui n'étaient pas très bonnes, sauf en art déco, parce qu'évidemment, tapisserie, elle devait être impeccable, elle a eu 14 ou 15. Ils ont dit, oh, elle est tellement gentille, on va lui donner quand même. Donc, dans les commentaires du jury.
Comme quoi, elle était gentille quand elle voulait.
Elle devait être une jeune femme charmante, intelligente et je sais pas s'ils ont dit gentille, mais bon, bonne volonté. Ou, enfin bref, ils ont été conquis par parce qu'elle avait beaucoup de charme. Elle avait beaucoup de charme.
Et quelqu'un d'autre a été conquis, c'est Robert Goldwater.
Moi, je me suis fiancée 7 ou 8 fois et toutes les fois ça a cassé. Toutes les fois, je l'ai cassé.
Ah, j'ignorais ça.
Si. Et puis alors, à la fin, je suis arrivée avec le type que j'ai épousé, avec lequel j'ai vécu 30 ans. Et... Excusez-moi. Ah ben, il m'a coupé le sifflet.
vous avez rompu cette fiançaille.
Ouais. Oui. Et puis après, la 8e fois, j'ai dit, j'ai épousé mon mari Robert, et si bien que les gens ne le croyaient pas. Je me suis mariée entre 4 yeux et avec un Américain et les gens ne comprenaient pas pourquoi je me suis mariée en cachette. Je me suis mariée en cachette parce que peut-être que si j'avais attendu encore un peu longtemps, ça aurait eu le même sort. Mais aujourd'hui, les femmes se marient plus tard. Yeah. Take your time. Faster and faster, baby. Groove with it.
Un autre extrait de cet entretien avec Monette Berthommier, qui date de 1999, Marie-Laure Bernadac. Alors on la demande beaucoup en mariage, elle finit par épouser ce type, Robert Goldwater, vraiment sur un coup de tête, hein, en 20 jours.
Eh oui, ça, quand j'ai vu les dates, c'est à peine 20 jours. Donc il vient dans cette petite galerie du 174 Bois Saint-Germain, c'est un étudiant américain qui vient de terminer sa thèse sur l'influence du primitivisme sur l'art moderne. Donc c'est un des premiers, avant Rubin, avant toute la grande question du primitivisme et de ses relations avec le début de l'art moderne.
Du coup, il s'intéresse à Picasso.
Bah, évidemment, Picasso, mais aussi l'art des enfants, l'art brut, l'art africain, bien sûr. Donc, il rentre dans cette galerie pour acheter... Il voit une gravure de Picasso, des saltimbanques, donc il lui achète cette gravure. Et tout de suite, il l'emmène place du Tertre, il lui parle de l'art, de l'avant-garde. Il lui dit qu'est-ce que c'est pour lui vraiment l'art moderne. Parce qu'avant, Picasso, elle n'en parle pas du tout. Hein.
Donc, dans sa galerie d'ailleurs, est-ce qu'elle vend beaucoup d'art moderne?
Elle vend des gravures de Vallotton, de Toulouse-Lautrec, Géricault. C'est plutôt de l'art assez classique, académique. Bon, Picasso, période saltimbanque, mais pourtant on est quand même en 38, hein, donc il y a eu le surréalisme. Alors l'autre paradoxe aussi, c'est qu'elle habitait à un moment au-dessus de la galerie Gradiva, rue de Seine, donc elle a forcément une petite connaissance.
Donc
la galerie d'André Breton, avec la porte de Duchamp, elle a vu forcément une ou deux expositions surréalistes, puisqu'elle était juste au-dessus. Non, mais pour elle, c'était, à mon avis, tellement avant-garde qu'elle ne le voyait pas. C'est grâce à Goldwater, donc elle dit, entre 3-4 discussions, hop, on s'est mariés. Donc, c'était genre le 20 août, ils se marient le 12 septembre. Mais je crois que si c'était une façon d'échapper à sa famille...
Le 24 août 1938 à 15h.
À 15h, voilà, j'ai même retrouvé la date. Parce que Robert se rappelle de cette date, évidemment, dans leur correspondance. Je pense que c'est une façon de fuir son père, de fuir sa famille, d'échapper. Et je crois qu'elle a tout de suite compris qu'avec Robert, c'était un appui qu'elle allait vraiment découvrir. Vous allez dire le Nouveau Monde, l'Amérique, New York, qu'elle pourrait vraiment avoir une carrière d'artiste, qu'elle ne serait peut-être pas arrivée à faire avec le père à Paris.
Donc, Robert Goldwater fait son éducation artistique, d'une certaine façon ?
D'une certaine façon, oui. Il y a vraiment, et quand elle arrive à New York, elle dit qu'elle découvre les musées, qu'elle découvre la grande. Elle écrit beaucoup à une amie, Colette Richard. Ça, c'est une correspondance qu'on avait déjà un petit peu publiée, qui était une de ses amies de la Grande Chaumière, qui, elle, continue à faire des choses extrêmement classiques. Et elle lui dit, mais on a tout faux, tout ce qu'on a appris à la Grande Chaumière, ça sert à rien. Il faut que tu lises Cahiers d'art, il faut que tu vois Picasso, il faut que tu vois les surréalistes, il faut que tu vois Dada. Tu vas beaucoup rire, donc ça veut dire qu'ils n'avaient aucune connaissance dans leur enseignement classique académique de toute cette avant-garde. Et c'est grâce à New York et grâce à Goldwater qu'elle découvre ça.
Il y a quand même de l'inquiétude. Vous racontez très bien le moment du départ, donc tout s'est fait tellement vite aussi.
C'est avant la guerre en plus, quand même. 38, il y a quand même des menaces et des menaces. Il faut partir très vite, donc ça, elle le dit elle-même, elle n'a prévenu personne. Ils sont mariés à la mairie de Saint-Sulpice. Je sais même pas si le père était là. Les témoins de Robert, c'était Laurence Veil, donc un ex-mari de Peggy Guggenheim, et un autre marchand dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Donc, mais elle, je sais même pas si elle avait des témoins, ni sa famille était pas là, et hop, elle est partie en bateau au Canada.
Et c'est la Runaway Girl.
C'est la
un
fuite.
Chapitre que vous intitulez comme ça. Ça veut dire qu'elle fuit réellement.
Je pense que la France est trop lourde pour elle. C'est trop de passé, trop de souvenirs, des relations toujours ambiguës avec son père, même si elle tient la galerie avec lui, qu'ils s'écrivent mutuellement. J'ai même découvert un truc assez bizarre. C'est un moment où elle fait un voyage en Suisse pour aller voir un ami qu'elle a connu à la Grande Chaumière ou dans une académie. Et il y a un détective qui se renseigne sur ce type et sur la famille. Donc forcément envoyé par le père. Ça veut dire qu'il y a quand même une espèce de pression du père assez difficile. Donc, et puis je crois que c'est un coup de foudre aussi, hein. Lui est vraiment tombé amoureux de cette jeune Française aux grands yeux bleus, quand même très cultivée. Hein. Ouais. Faut pas oublier que c'est quelqu'un de très cultivé. Donc on a parlé de ce voyage en Russie, elle a quand même une connaissance de tout l'art ancien, hein, de la Renaissance au 19e, très importante, à la fois technique et d'histoire de l'art. Elle est française, donc ça, lui-même parlant français, fasciné par cette jeune Française. Donc il y a un coup de foudre amoureux. Ça,
c'est un amour qui dure jusqu'à la mort de Robert Goldwater.
Mort très brutale en 73, elle le retrouve mort dans son lit au petit déjeuner, il y a un peu de version d'une crise cardiaque. Forcément, au début, comme dans tout mariage, c'est difficile, hein, parce que justement, elle dépend de Robert. Robert est trop présent, elle n'a aucune autonomie.
Il lui empêche un petit peu de développer son art, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais quand elle voudra travailler avec la France en vendant des tapisseries,
possible.
Pour lui c'est pas possible parce que ce serait un
le
problème.
Le marché de l'art. Voilà, lui, en tant que conservateur, on a la même chose dans les milieux français quand on est conservateur ou conservatrice, pardon.
On peut pas vendre quoi.
On ne peut pas travailler avec des marchands. Donc, parce que c'est au début, tu t'es dit, je vais gagner de l'argent en vendant des tapisseries ou en ayant une petite galerie. Et bon, finalement, c'est pas possible. Mais en même temps, Robert l'a tout le temps soutenu. Il croyait à son travail énormément, il la soutient énormément. Sur le plan de la vie privée, elle dit tout le temps Robert est un saint parce qu'il s'occupe de tout, hein, des enfants, de Louise, de ses crises, de sa grave dépression dans les années 50, de ses expositions. Il écrira sur elle dans Cimes, enfin dans des revues étrangères hein, plutôt, enfin, françaises, pas américaines. Il croit vraiment en elle, je crois. Et il y a une lettre assez bouleversante des années 50 qu'il publie où il dit que tout ce qu'il regarde, c'est grâce à sa présence. Il lui doit beaucoup. Hein. C'est vraiment un vrai couple au sens que il lui a apporté cette nouvelle vie à New York, cette confiance, l'ouverture sur tous les artistes surréalistes, sur les musées, les critiques d'art. Il lui a ouvert énormément de portes, tout en bloquant par sa situation, donc c'était un peu compliqué. Mais elle-même lui a apporté beaucoup.
Et les enfants alors, parce que c'est très important pour Louise Bourgeois d'avoir des enfants. Au début, elle croit même qu'elle ne peut pas en avoir.
Oui, en bonne hystérique, elle est persuadée parce qu'au bout d'un an et demi ou deux ans, elle n'est toujours pas tombée enceinte. Donc elle s'est dit, je ne peux pas. Donc elle retourne en 39 pour prendre pas mal d'affaires. 39, août 39, donc les parents ne veulent pas, trouvent ça très dangereux. La guerre est quasiment déclarée, c'est la catastrophe. Et elle décide de pas partir de France sans emmener quelque chose de très précieux à la fois, parce qu'elle veut adopter un enfant. Elle se dit, si je quitte complètement la France avant la guerre, il faut que j'emmène quelque chose de très précieux, donc un enfant. Donc elle se rend dans un orphelinat à Margaux, à côté de Bordeaux, et elle voit un petit Michel Olivier qui a 4 ans. Donc il est adoptable, tout est possible, mais les papiers de l'assistance publique sont pas prêts, elle peut pas l'emmener, donc elle part sans ce petit enfant en 39, désespérée. Et déjà avec les derniers bateaux, c'est déjà assez compliqué de partir mi-septembre 39 pour retourner aux États-Unis. Et le petit garçon n'arrivera qu'en mai 1940 dans un bateau avec des prises des Anglais qui est passé par les Méditerranées, un des derniers bateaux pas torpillés qui a pu aller jusqu'à New York. Et il doit être accompagné d'une nurse. Enfin, cette adoption est compliquée à tous les niveaux. Et évidemment, quand il arrive, elle est enceinte. Biologiquement de Jean-Louis, donc son premier fils. Donc elle se retrouve avec un petit garçon adopté de 4 ans avec les complications d'un petit enfant qui parle français, qui a fait tout seul cette traversée en bateau, qui crie, qui hurle, qui pleure, plus Jean-Louis. Mais alors, elle, alors là aussi c'est quelque chose de très étonnant. Beaucoup de gens ont dit c'est une très mauvaise mère, elle détestait ses enfants, elle veut les manger, elle veut s'en débarrasser. J'ai comme toutes les mères, hein. Les mères adorent leurs enfants et sont à la fois bonnes et mauvaises. Je pense que c'est
inévitable. Vous avez dû discuter avec les enfants de Louise Bourgeois, vous avez pu les rencontrer.
Alors eux, malheureusement, très très mauvaise image de leur mère. J'ai essayé. Bon, j'ai pas connu Michel parce que Michel adopté est mort en 90, mais j'ai bien connu et Jean-Louis et Alain parce que juste après Jean-Louis, elle a un troisième garçon, donc Alain. Et bon, je leur posais plein de questions sur l'enfance, leurs souvenirs, leur vision de la mère. Et alors, ils sont aussi critiques vis-à-vis de leur mère que vis-à-vis du père. Genre, ils étaient chacun dans leur soit l'atelier, enfin comme tous les enfants peuvent se plaindre de parents et de couples qui travaillent du matin au soir, qui s'intéressent à l'art. Je pense que ça n'a rien. Et en même temps, je dis, j'espère que vous découvrirez dans le journal, dans la correspondance entre vos parents, à quel point ils vous aimaient. Parce que la correspondance entre Robert et Louise dans les années 60 et 70, ils ne parlent que des enfants. Et Louise, dans son journal, ne parle que de ses enfants.
Compagnie des œuvres sur France Culture. Nous parlons de Louise Bourgeois avec vous, Marie-Laure Bernadac. Parlons peut-être un petit peu de son entrée réelle dans le monde de l'art, qui est assez tardif, mais comment finalement arrive-t-elle à dépasser l'écran que d'abord le fait qu'elle soit une femme pose, son mari aussi fait peut-être écran à sa carrière. À quel moment est-ce qu'elle arrive à dépasser tout ça?
Alors, là aussi, il faut un peu rétablir la vérité, parce que, en fait, elle a eu une époque où elle était quand même montrée dans des galeries. Elle n'a pas été découverte en 82 pour la grande expo, ce qu'on dit tout le temps, du musée d'art moderne du MoMA. Et il y a des éléments personnels qui ont empêché sa reconnaissance, dont je parle un petit peu, et aussi le contexte de la non-reconnaissance des artistes femmes. Mais elle a déjà deux expositions en 45, c'est Bertha Schaeffer, des expositions de peinture, ensuite en 47-48 à la Norwich Gallery, donc elle monte des peintures. En 50-51-52, elle monte ses premières sculptures, hein, les fameux personnages en bois, dans la galerie Péridot. Elle a même un achat du musée d'art moderne de William Rubin, donc c'est quand même pas une inconnue. Et si elle est si peu connue, c'est qu'à partir de 53-54 jusqu'en 63, elle-même ne fait plus rien. Il y a aussi il y a les premières peintures, les gravures, elle édite un recueil aussi, It Disappears in Complete Silence, qui est publié. Donc il y a ses expos de peinture, de sculptures qui ont un certain écho, hein, dans la critique américaine, remarque un petit peu, bon, elle a une mauvaise critique dans le New York Times, donc elle en est complètement malade, qu'il y a une mauvaise critique, elle est désespérée, elle ne fait plus rien. Et le père meurt en 51, et elle ne travaille quasiment pas jusqu'en 63.
Alors là, elle fait autre chose, elle entame une longue psychanalyse, voilà. Et qui va être aussi quand même déterminante,
ah, je pense.
Pour sa vie, pour son art aussi. Ouais.
Parce que d'après ses proches, et d'après elle-même et son journal, qui est terriblement émouvant et déprimant. Elle traverse donc cette grave dépression. Le père meurt en 51. Elle rentre donc après à New York. Elle voit d'abord un premier psychanalyste, docteur Kramer, et puis après ça marche pas, et elle voit le docteur Henri Lowenfeld. Donc janvier 52, et quasiment jusqu'à la mort d'Henri Lowenfeld, c'est-à-dire pendant 14 ans, elle le voit. Donc la psychanalyse est vraiment intense dans les années 50 et 60, 3-4 fois par semaine, parce que ses fils se souviennent très très bien qu'elle était dans son lit et qu'elle ne bougeait plus. Hein, donc elle était totalement... Alors elle fait beaucoup de voyages en France, ce qui était sans doute assez perturbant. Dans les années 50, elle vient régulièrement en France pour régler des affaires de succession, pour certains voyages... voir sa famille, quand même, voir Henriette, son frère dont on en parlera peut-être, qui est à l'hôpital.
On peut dire un mot maintenant, parce que je ne sais pas si on aura tellement le temps
de
revenir.
Oui, ça c'est assez dramatique, ce qu'on a découvert aussi, parce qu'elle l'a toujours caché aussi, ça, parler de Pierre. Pierre a été enfermé par le père en 45 et est resté jusqu'en 60.
Donc enfermé dans un asile psychiatrique.
Ouais. Comme schizophrène, violent, bon, il y a des rapports de psychiatres, des rapports de la gendarmerie, parce qu'il aurait tout cassé à Anthony. C'est un désaccord sans doute avec le père, et Louise est allée le voir une fois en 57, et envoyer une artiste américaine très sympathique qui s'appelle Shirley Jaffe, qui est morte là récemment, et comme elle-même n'osait pas y aller, ça lui faisait tellement peur, elle envoyait Shirley Jaffe s'occuper. Bon, c'est une parenthèse assez dramatique.
Donc c'est quand même toute la question de la culpabilité qui se pose là, parce que ce frère,
qu'elle adorait,
elle aurait pu l'aider davantage.
Mais à un moment, elle était même prête à le prendre, il avait pris son billet pour aller à New York, pour la rejoindre, et le père l'a empêché en pensant que ce serait catastrophique pour le couple, et elle-même a dit à son père, non, je ne peux pas recevoir Pierre. Bien sûr qu'il y a une culpabilité sûrement vis-à-vis de ce frère. Donc elle le voit une fois, puis après elle meurt en 60. Donc cette période des années 50 est très... Alors du coup, pour surmonter sa dépression, elle monte une petite librairie qui s'appelle Erasmus, de 57 à 60, où elle vend de nouveau, elle fait comme son père. Elle dit, je retrouve comme mon père à vendre des gravures, à vendre des livres anciens, et qu'elle a gardés d'ailleurs, qui sont toujours dans sa maison.
On va revenir justement un petit peu sur la figure du père.
J'avais un père très macho. Après les repas de famille, il était d'usage en France de chanter des chansons, de réciter des poèmes. Mon père, lui, faisait quelque chose qu'il trouvait très drôle. Il se moquait de sa fille. Il prenait une orange et dessinait sur la peau un personnage avec un rasoir. D'abord la tête, puis le corps. La poitrine très grosse. Puis, il pelait la peau de l'orange de telle sorte qu'apparaisse quelque chose de proéminent et de définitivement masculin entre les jambes. C'était supposé être mon portrait. Et il disait à la compagnie, « Vous voyez ?» J'ai essayé de faire le portrait de ma fille, mais à ma grande surprise, cette jolie chose montre que ce n'est pas ma fille. Et toute la salle éclatait de rire, et j'étais morte de honte.
Est-ce qu'il ne faut pas toujours revenir avec Louise Bourgeois à la question du père Marie-Laure Bernadac?
Elle est certes essentielle, on le voit bien dans sa psychanalyse, dans des œuvres comme l'œuvre qui s'appelle La destruction du père. Donc c'est à la fois le père, mais c'est aussi le mari, c'est le patriarcat, c'est tout.
D'ailleurs, elle l'écrit en elle ne l'écrit pas, elle produit cette œuvre en 1974, ouais, à la mort de son mari.
De Goldwater. Donc c'est toutes les figures de père, ce qu'elle appelle les pères pontifiants, mais c'est aussi André Breton, Marcel Duchamp, les surréalistes, tous ces grands artistes qui l'ont écrasé, donc toutes les figures de père. Oui, c'est une figure extrêmement importante, parce que c'est pas un hasard si elle fait cette grande dépression après la mort du père. Il y a aussi un autre fait significatif, c'est qu'elle donne à ses trois enfants Goldwater le nom du père. Quand le père meurt, par décret juridique, elle demande que ses enfants s'appellent Bourgeois. Donc, c'est-à-dire que c'est pour transmettre le nom de Bourgeois, le nom du père.
Et aussi la France un petit peu.
Et aussi la France. Moi, j'ai une espèce de chapitre qui s'appelle Férocement française, parce qu'elle est obsédée par la France. Elle voulait même accoucher de son premier fils pour qu'il ait la nationalité française à Saint-Pierre-et-Miquelon. Parce que si un enfant naît à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est français. Donc son père lui a dit non, non, fais pas ça. Si tu viendras plus tard, va donc être obsédé par la France à cette époque-là.
Alors cette œuvre, La destruction du père, il faut raconter un tout petit peu ce que c'est.
Une espèce de festin cannibale.
C'est un festin cannibale, elle a failli appeler ça The Evening Meal, le repas du soir.
Le repas du soir.
Et qu'est-ce qu'on mange alors?
Ben, on mange le père.
On mange le père.
Une espèce d'énorme bouche géante avec des formes molles. Elle a même pris des morceaux de viande et d'os qu'elle a moulés en latex. Mais puisqu'on écoutait cette fameuse anecdote là de l'Orange épisode, hein, l'épisode de l'Orange, Il paraît que c'était une petite plaisanterie que son père avait appris dans les tranchées. Dans les tranchées pendant la guerre, tout le monde s'amusait à découper les oranges, l'ouvrir et avoir la petite pointe qui faisait un phallus. Donc cette moquerie de son père vis-à-vis de son absence de phallus, c'est quelque chose qu'elle a ressenti très cruellement, cette moquerie d'être une fille, puisqu'elle parle tout le temps de l'envie du phallus. C'est quelque chose qu'elle exprime très très clairement.
Elle dit qu'elle a des besoins sexuels qui sont plus importants que ses besoins émotionnels ou affectifs.
Alors là aussi, c'est assez compliqué sur la sexualité, parce qu'à la fois, tout le monde la considère comme une femme assez froide, assez frigide, et en même temps, elle dit justement qu'il faut sacrifier, que l'art, c'est le sacrifice de la vie et de la sexualité. Donc le sexe aussi, c'est lié à la mort, pour elle, ça elle le comprend très très bien. Mais elle a aussi des réflexions sur l'énergie sexuelle, en effet, en disant « Robert en avait très peu, un tel en avait très peu. »
Son père en avait beaucoup.
Son père et Pierre en avaient beaucoup, évidemment. Donc elle a ça, des espèces d'évaluations comme ça sur l'énergie. Mais en avant qu'elle-même, c'est une forme de sacrifice qu'il faut faire et que toute l'énergie, bon, de la libido pour aller vite, doit être dans l'art, doit être dans la création artistique. Et bien, je ne sais plus ce que je voulais dire, parce que vous me parlez du sexe, donc je suis très troublée.
Vous êtes troublée. Parlons du grand âge. Mais même si elle reste quand même, je pense, une amoureuse, y compris dans son grand âge. Vous racontez l'épisode avec son étudiant.
Oui. Ah, bah, ça m'a beaucoup amusé, le mariage. Oui. Quand elle fait un faux mariage. Oui, avec Pietro Tsicotiani, oui.
Bon, on peut la raconter rapidement.
Alors, elle est ce qu'on appellerait une cougarde, c'est qu'elle adore les jeunes hommes. Elle est un peu amoureuse, amoureuse de plus jeunes conservateurs de Dominique Bozzo. Elle a des amitiés amoureuses. Après, avec plein de jeunes Français qui viennent la voir et qui sont un peu amoureux de cette petite femme, cette petite bonne femme qui était apparemment quand même très originale, ça je peux confirmer, très singulière. Et elle crée tout de suite des relations très fortes. Et ce jeune étudiant qui était italien, déjà c'était d'origine italienne, avait décidé que pour son diplôme de fin d'études, il fallait faire un faux mariage. C'était l'époque conceptuelle, années 70, et Louise marche dedans, il y a des témoins, ils font tous les papiers. Et au dernier moment, il se désiste parce que sa mère lui dit, mais en fait, tu vas pas épouser Louise Bourgeois.
Oui, surtout que bon, il arrive que, parce qu'ils habitent plus ou moins un petit peu.
Ah oui,
ensemble,
elle l'héberge, j'ai dû faire manger.
Et donc, s'il rentre un peu tard, elle lui lance des bûches.
Ah oui, jalouse,
bon, c'est pas évident
quoi.
Quand même de vivre avec Louise Bourgeois.
Non, c'est quasiment impossible. Mais ça veut dire qu'elle était toujours intéressée par les. D'abord, c'est une très très bonne professeure. Elle était professeure à la School of Visual Art. C'est un de ses élèves. Elle a un rapport de maître-élève. Très, très important. Elle adore être avec des jeunes, ce qui fait qu'elle a toujours été une artiste contemporaine. C'est toujours les jeunes qu'elle adore. Même jusqu'à la fin de sa vie, elle est en phase avec la jeunesse, avec beaucoup plus avec les gens de sa génération.
Jusqu'à la fin de sa vie qui va durer, on l'a dit, très longtemps, puisqu'elle meurt à 98 ans.
Quasiment 99, oui.
Mais elle garde, et on l'entend dans les archives, une espèce de vitalité complètement incroyable.
Oui, beaucoup d'humour, toujours. Et puis, bon, il faut qu'on parle quand même de sa rencontre, si on a parlé de son dévolu sur les jeunes hommes, avec Jerry Gorovoy. Parce que là aussi,
son
crois que c'est un élément capital de son assistant qu'elle rencontre en 80, et qui finalement va passer toute sa vie, enfin pas sa vie parce qu'il habite, il est indépendant, j'ai compris, mais qui va s'occuper de son travail,
de ses expos. Oui, il avait peur des bûches peut-être.
Il avait peur des bûches, mais qui consacre quand même toute sa vie. Il venait d'une galerie, il avait travaillé dans différentes galeries. Il a eu le coup de foudre, et pour la femme, et pour le travail, qu'il découvre complètement. Et je pense que ça va être quelqu'un d'essentiel pour l'aider à développer vraiment, à partir de 82, une carrière internationale.
Pour terminer, Marie-Laure Bernadac, est-ce qu'il y a un style tardif de Louise Bourgeois ?
Oui, parce qu'à partir de 90 ans, elle utilise des autres matériaux, des matériaux très mous, elle fait que des choses en tissu, et elle se consacre principalement à la gravure au dessin, à la gouache. Et ses thèmes, d'où mon intérêt double, sont essentiellement le couple, l'étreinte, les baisers, et elle-même l'accouchement. Donc toute son œuvre narrative est empreinte d'érotisme. Et comme vous le savez, j'ai travaillé beaucoup sur Picasso et j'ai été frappée de savoir que la dernière période de Picasso, c'est aussi des coupes, des étreintes, des baisers. Alors évidemment, il y a un point de vue très viril et masculin et un point de vue féminin. Mais le style très lâché, très bâclé, qui est dû à la grande faiblesse. Elle sort plus de son atelier, on lui apporte des feuilles avec un grand pinceau, elle dessine toutes ces gouaches rouges qui sont des nourrissons, des seins, des ventres. L'obsession de l'accouchement, l'obsession de la maternité. Et quand on lui montrait ses dessins avec des énormes seins qui écrasent un tout petit nourrisson, on lui demandait si elle était elle-même la mère nourricière, elle dit non, moi je suis le nourrisson. Donc il y a vraiment un retour au ventre de la mère.
Et de toute cette œuvre, nous continuerons à parler dès demain dans cette émission. Merci beaucoup Marie-Laure Bernadac d'être venue nous raconter la vie de l'artiste franco-américaine Louise Bourgeois, à qui vous consacrez une biographie sortie en avril dernier aux éditions Flammarion. Tout de suite, on retrouve en compagnie des revues.
compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et en compagnie aujourd'hui de la revue Critique avec vous, Martin Rueff. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Vous êtes un grand spécialiste de la littérature italienne. C'est vous qui venez donc nous parler du numéro spécial de Critique que vous avez coordonné, qui est consacré à l'écrivain italien Walter Citti, lequel apparaît aux yeux de beaucoup comme le plus grand romancier contemporain ou le plus grand romancier italien contemporain. Jusqu'où est-ce qu'on va ?
Le plus grand romancier contemporain italien.
Quand même, c'est déjà pas mal.
Oui.
Alors, qui est Walter Citti et pourquoi consacrez-vous un dossier à son œuvre et à sa vie ?
Bien, on peut dire qu'à l'heure où l'Italie connaît une des nouvelles crises politiques qui jalonnent son histoire récente et qui laisse les commentateurs français inquiets, à leur tour, que ne s'avère l'inquiétante formule du Guépard, selon laquelle, si nous voulons que les choses restent en l'état, il faut que les choses changent, la revue Critique, en effet, consacre sa rentrée à Walter Citti. Peut-être, le disiez-vous, le plus grand romancier italien contemporain, en tout cas le plus suivi et le plus classique aussi peut-être, si par romancier classique on veut dire un romancier qui fait du roman un instrument d'investigation totale de la condition de l'homme moderne. Le numéro s'appelle « Walter Citti ou l'Italie à rebrousse-poil » et la formule peut surprendre. Elle renvoie une des thèses de Walter Benjamin sur l'histoire, essayons de l'expliquer. Benjamin s'insurgeait contre les historiens qui montaient sur le char des vainqueurs pour écrire leur louange, l'histoire des vainqueurs. Et il appelle de ses voeux une histoire critique, écrite en conformité avec les exigences de Marx, à savoir ce qu'il appelle l'histoire à rebrousse-poil. Pour lui, les grands romanciers prennent l'histoire à revers pour écrire la comédie humaine, et il cite Flaubert. C'est le cas aussi des grands romanciers américains, c'est le cas peut-être de tout grand artiste. Et c'est le cas de Citti. Chez Citti, si j'ose dire, le rebrousse-poil est double. C'est d'abord que Citti prend notre goût de l'Italie à contre-pied. Il faut dire et redire que la littérature italienne qui marche en France, celle qui fait aimer l'Italie, qui la fait adorer même, brosse souvent un portrait trop attendu de ce pays. Ce portrait est double, c'est d'une part l'Italie des dépliants lisses, où le soleil scintille sur la mer, où on mange en famille des spaghettis à la tomate arrosés d'un bon vin, sur des terrasses où sèchent de grands bras blancs qui flottent au vent, et où la passion fait vibrer les êtres. C'est d'autre part l'Italie de la mafia qui fascine, avec ses crimes, ses archaïsmes régionaux, ses bas-fonds qui ruissellent de sexe et de poudre. En un mot, l'Italie des amis et celle des commissaires. Est-ce qu'on veut échapper à ces images réconfortantes parce que reconnaissables? Si vous le voulez, ben il faut lire Citti. Il faut faire de Citti votre manuel ou votre guide de voyage, une espèce de guide du routard halluciné, écrit par un dante pornographe. Et alors, Mathieu, vous ne serez pas déçu du voyage. Alors,
qu'est-ce qu'il y a dans ce numéro de Critique exactement pour le découvrir ?
Alors, dans ce numéro de Critique, on trouvera trois textes inédits de Walter Citti en français, une anticipation des bonnes feuilles de son prochain roman.
C'est formidable d'ailleurs.
Ouais, qui s'appelle donc Le Chant du Diable, traduit par Martine Segonde-Bauer, qui a traduit en effet la quasi-totalité de l'œuvre de Citti en français. On trouve aussi un entretien que j'ai fait avec lui et un très très beau article critique, et puis de lui. Et puis, cinq ou six contributions des plus grands critiques italiens contemporains, Berardinelli, Mazzoni, Bazzocchi, Corteles, Gianluigi Simonetti, ainsi que deux très forts articles de Thierry Hoquet et d'Emmanuel Bouju, plus un bel article sur l'Anacolute de Martine Segonde-Bauer.
Voilà qui donne envie. Merci beaucoup Martin Rueff. Je renvoie donc nos auditeurs à ce numéro de la revue Critique actuellement en librairie. Les ouvrages de Walter Citti traduits en français sont disponibles aux éditions Verdier dans la collection Terra d'Altri, que vous dirigez d'ailleurs Martin. Puis je signale que vous venez de publier un recueil de poèmes intitulé La Jonction. C'est aux éditions Nous. C'était la compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Valentin Bobinet. Demain, on continue de parler de Louise Bourgeois avec Nadine Satia.